102.1.
Marceau le midi. Bon, on sait que c'est pas original comme titre, mais on économise notre créativité pour le contenu. Voici Marceau le midi avec Marceau et Pascal CV.
Un excellent midi sur les ondes de Boulevard. Denis Gravel qui est en vacances cette semaine. Pascal qui est là. On va parler d'actualité, bien entendu, mais on fera pas le pit stop pour ce qui est de cette semaine. Ça va être de retour lundi prochain. C'est 3 degrés sur Québec, c'est confortable. Ce matin, il y avait quelques éclaircies. Là, c'est très nuageux sur Québec. 40 % de probabilité d'averse pour aujourd'hui, maximum de plus 3. Ce soir, pluie intermittente, risque de pluie verglaçante aussi en terrain montagneux. Des températures stables après de plus 3 degrés. Demain, mardi, ce sera de la pluie intermittente avec un maximum de 10. Mercredi, nuageux avec des probabilités d'averse à 60 % maximum de 17 degrés. Et jeudi, alternance soleil-nuage avec un maximum de plus 5. Et vendredi, de la pluie intermittente, maximum de 6 degrés. Vous avez des choses à nous dire, vous êtes nos yeux, nos oreilles. 418-971-1021 s'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis. Dossier d'enquête dans le soleil que j'ai trouvé franchement intéressant ce matin quand j'ai lu ça. C'est l'équipe d'enquête, d'ailleurs, qui a travaillé là-dessus. On parle de suicide chez nos militaires canadiens, principalement chez nos militaires québécois. On parle de 54 morts en 7 ans. Un suicide, c'est un suicide de trop. Puis là, j'ai commencé à lire l'article. Puis ce qu'on apprend, c'est que, avec Patricia Rainville, c'est qu'en février 2017, il y a un vétéran de 39 ans qui s'est enlevé la vie. Lui, il aurait multiplié les démarches comme pas possible pour obtenir de l'aide. Et le coroner qui s'est penché un peu sur le décès du vétéran de 39 ans a dit que c'était une procédure qui était extrêmement lourde, qui cause de l'anxiété et du découragement auprès de nos soldats. Et on avait demandé à Ottawa peut-être d'en faire plus pour prévenir le suicide au sein des troupes. On a le plaisir d'avoir Patricia Rainville qui est au bout du fil. Salut Patricia.
Bonjour Yannick.
Ça a dû te briser le cœur d'enquêter sur ce dossier-là. Je veux dire, en lisant juste les premières pages, c'est un dossier qui est quand même très étoffé, mais juste les premières pages, ça pogne au cœur.
Oui, bien en fait, c'est sûr que c'était pas un sujet très facile. Là. J'ai travaillé là-dessus durant quelques mois quand même, donc lu, relu et relu les rapports de coroner pour essayer de mieux comprendre là, cette problématique-là. Donc oui, là, il y a par moments que ça a été plus difficile que d'autres. C'est sûr que c'est des jeunes hommes aussi, hein,
ouais.
La majorité 35-55 ans, là, des pères de famille et tout ça, donc c'est pas évident.
Patricia, est-ce que... bon, il y en a eu 54. Ce qui est hallucinant, c'est qu'à chaque fois, il y a un coroner qui se penche là-dessus et dans les recommandations du coroner, la presque totalité, du moins, on fait pas de recommandations pour tenter d'essayer d'améliorer les choses. Est-ce qu'on t'a expliqué pourquoi?
Bien, en fait, oui, c'est vraiment quelque chose qui m'a étonnée là, au fil de mes lectures parce qu'on entend souvent là, les coroners qui font des recommandations. Donc, j'avais demandé au bureau du coroner là, du Québec qui m'explique pourquoi est-ce que dans ces cas-là de suicide chez les militaires, il y en avait aussi peu. On m'a quand même dit que c'est environ 4 à 5 % là, des rapports de coroner pour tous les décès là, survenus qui se soldent par des recommandations. Dans ce cas-ci qu'on parle des suicides de militaires, c'est autour de 2 %, donc c'est un peu moins élevé. On m'a expliqué, bon, différentes choses, c'est que parfois, il y a des recommandations qui ont été déjà formulées dans le passé et qui ont mené justement à des changements, ce qui fait expliquer que pour les décès, là, qu'il n'y a pas de recommandations, ou seule l'investigation d'un coroner peut aussi mener à des changements au sein d'une organisation, comme c'est le cas ici, là, dans l'armée, même s'il n'y a pas de recommandations formelles, quand il y a un coroner qui penche sur un dossier, ça fait bouger des choses.
Je m'excuse de vous demander ça, Patricia, mais si vous êtes sur main libre ou quoi que ce soit, juste peut-être prendre la ligne normale pour le son, on a un petit enjeu, mais il y a quelque chose qui semble tabou parfois avec les forces armées canadiennes, c'est de revenir sur ces choses-là, en jaser. Vous avez fait une enquête. Est-ce que vous avez senti qu'on avait du mal à vous répondre quand vous posiez des questions?
En fait, non. Je ne sais pas si vous m'entendez mieux. Là.
Oui.
En fait, non. J'ai eu des entrevues là justement avec l'armée canadienne, aussi avec le ministère des anciens combattants. Ça va être la suite demain, la suite du reportage là. Ils ont quand même fait beaucoup de changements depuis 2017, quand le taux de suicide a explosé après la mission en Afghanistan. Donc, ils ont fait des programmes et tout ça, mais ça semble un petit peu perdus, là, c'est vraiment les vétérans, là, que ça fait plusieurs années qu'ils ont quitté l'armée, qui sont dans une classe, disons, un petit peu à part, là. On perd leurs traces et au bout de quelques années, bon, il peut arriver des drames comme des suicides. C'est parce que des 54 décès, là, il y avait le deux tiers que c'était des vétérans, là.
Oui, il y en a 18 sur les 54 qui étaient des militants, qui étaient encore actifs. C'est 33 qui étaient des vétérans. Est-ce que, ben pour avoir des chums qui sont dans l'armée, eux, ils peuvent pas consulter au public, là, en raison du fait qu'ils n'ont pas de carte d'assurance maladie, de ce que je comprends, là. Ils ont leur propre médecin. Est-ce que ça peut être une problématique? Est-ce que les coronaires se sont penchés là-dessus? Parce que je veux pas, si tu n'es pas capable d'avoir de l'aide du côté de l'armée canadienne, techniquement, tu serais supposé d'être capable d'avoir de l'aide au public?
Bien, en fait, ça, non, c'est pas revenu, là. Je pense qu'il y a quand même des militaires qui se sont tournés vers le public au cours des dernières années, mais je peux pas vous répondre spécifiquement là-dessus parce que c'est pas un aspect là, que j'ai vu dans les rapports.
Dans les rapports que vous avez consultés, vous vous en faites un genre de point important de nommer ce qui était récurrent chez ces hommes-là, en fait, qui se sont enlevés la vie, que ce soit avec l'âge, mais il y a aussi d'autres constats, comme quoi il y en a plusieurs qui étaient des pères de famille, des conjoints. Vous avez parlé des troubles psychologiques. Pouvez-vous nous décrire un peu ce que vous avez, en fait, résumé dans votre article?
Oui, en fait, disons, un sur trois là, des cas avait un syndrome de choc post-traumatique déclaré. Donc, ça revenait énormément. Là, c'était lié à une mission, que ce soit en Afghanistan, mais des fois, c'était une mission, j'ai vu en Bosnie, notamment. Donc, ça datait de vraiment plusieurs années.
Il n'y avait pas de mission qui revenait continuellement ou majoritairement, comme celle en Afghanistan, par exemple. C'est pas, il n'y avait pas de majorité de ce côté-là?
Bien, c'est évidemment que celle en Afghanistan, c'est elle qui revenait le plus souvent parce que c'est la dernière qui est arrivée. C'est aussi une mission qui a été quand même longue là, dans le temps. Sinon, il y avait beaucoup, c'était pas des chocs post-traumatiques, beaucoup de dépressions majeures, des dépendances aussi là, à l'alcool, de l'anxiété. Donc, c'est vraiment des troubles de santé mentale qui revenaient pratiquement dans tous les rapports.
C'est surprenant. Vous avez eu la chance, de Patricia Rainville, de jaser avec la coroner Julie Kim Godin. Et elle a mené une enquête publique sur la thématique du suicide. Puis elle vous a expliqué en entrevue qu'il y avait seulement entre 4 et 5 des rapports de coroner qui se soldaient par des recommandations. Bien honnêtement, je suis dans les médias depuis quoi, 2006? Puis j'avais toujours l'impression que les coroners, chaque fois qu'ils faisaient une investigation, arrivaient avec des recommandations par la suite. Mais ce que vous avez découvert, c'est que dans le cas des suicides de militaires et des vétérans qui sont survenus dans les dernières années, c'est 2 % contrairement à 4 ou 5 % là, si c'est dans le public. C'est quand même assez particulier, ça. Puis elle vous a dit, bien, la meilleure recommandation, c'est celle qu'on n'a pas besoin de faire. C'est encore plus particulier comme citation.
Oui, exactement. C'est quand même une belle citation. Par là, elle voulait dire que peut-être que, justement, des recommandations par le passé ou des enquêtes de coroner avaient déjà fait bouger les choses parce que, faut le dire, là, quand même, depuis 2017, là, l'armée a fait quand même des progrès là, à ce niveau-là. Ça va être abordé demain. Là, le tabou, justement, de demander de l'aide, c'est quelque chose que l'armée essaye de briser parce que c'est beaucoup ce qui revenait des anciens militaires. C'est qu'on n'ose pas plier le genou parce qu'on se fait, après ça, juger, ouais, tu sais, qu'on a demandé de l'aide. On est vu comme des personnes un peu trop faibles. Donc ça, c'est vraiment une perception là, que l'armée veut à tout prix effacer.
Il y a beaucoup de moments dans votre article, puis Yannick, je ne sais pas si ça a attiré ton attention. Toi, d'après moi, ça va te parler, mais où vous avez récolté de l'information comme quoi plusieurs militaires, pour ceux qui se sont enlevés la vie dans ce que vous avez recensé, ont dit avoir été forcés à la retraite. Puis quand ça arrivait, bien, c'était plusieurs années plus tard pour ceux qui sont recensés dans le rapport. Y a-t-il un lien à faire, une corrélation à faire avec justement la fin de leur service, puis peut-être le manque de sens dans la vie d'un militaire par la suite, et aller porter un filet de sécurité justement professionnel pour ces gens-là, au-delà du mental, mais plutôt dans l'efficacité de se sentir un bon citoyen puis contribuer à la société?
Mm-hmm. Bien, on parle beaucoup d'une période qui est critique là, pour un ancien militaire après avoir quitté l'armée. C'est le 5 ans là, qui est justement là, les filets de sécurité. Il faut qu'ils soient là parce qu'un retour à la vie civile n'est pas nécessairement facile d'une personne à l'autre. Il y en a qui ont de la facilité, il y en a que non. Donc ça, c'est vraiment au niveau du ministère des anciens combattants qui essaie là, de justement accompagner ces personnes-là vers la vie civile. Et comme dit là aussi, les services ils ont été améliorés au cours des dernières années parce qu'il y en a pour qui c'est vraiment difficile. Puis aussi, quand on va pas bien, aller chercher de l'aide, ça peut déjà être un obstacle. Donc, quand la bureaucratie, la paperasse et tout ça est très lourde, ça en décourage plusieurs. Fait que c'est à ce niveau-là qu'on me dit là, que ça a été facilité justement au cours des dernières années.
Les militaires et les anciens militaires qui ont accepté de vous parler, Patricia Rainville, ils vous ont demandé l'anonymat le plus total. Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur de représailles ou ils n'ont tout simplement pas le droit de parler aux médias?
On m'a surtout dit que c'est parce que justement là ils voulaient pas qu'ils avaient un petit peu peur là des représailles là de pas nécessairement là qu'il y aurait eu des conséquences, mais ils m'ont demandé tous là de pouvoir garder l'anonymat. Puis dans des sujets comme ça, c'est quelque chose que j'ai pas trop de difficulté à accorder là, étant donné que c'est des sujets très sensibles.
Patricia Rainville, il va y avoir un autre reportage demain dans Le Soleil, de ce que je comprends?
Oui, ça s'intitule La fin d'un tabou, dit l'armée. Donc, c'est vraiment une entrevue avec les forces armées canadiennes, les spécialistes de la santé là, qui ont été engagés justement pour faire diminuer ce taux de suicide-là au sein des troupes, et aussi une entrevue avec une médecin-chef du ministère des Enfants. C'est quoi leur retour?
Merci beaucoup, Mme Rainville.
Ben, ça me fait plaisir. Bonne journée.
Au revoir. Bye-bye. Patricia Rainville, qui est de l'équipe d'enquête. Qu'on peut lire dans Le Soleil aujourd'hui, un excellent dossier. Il y en aura un aussi demain pour compléter. Des militaires qui disent, qui nous communiquent avec nous par texto, qui disent « Moi, j'avais... J'étais un ancien militaire, puis l'armée m'avait envoyé au système public quand il était question de suicide. »
OK.
Donc,
comme
là,
s'il
n'y
avait
dit...
pas la ressource adéquate au sein de leur propre, département médical?
C'est une très bonne question, Pascal. J'étais persuadé que les militaires étaient, du moins au niveau des hôpitaux et tout ça, étaient dûment formés les chocs post-traumatiques et tout ça. Bon, pour l'instant, c'est pas l'information que j'ai par texto, mais l'auditeur dit « Oui, j'avais gardé ma carte d'assurance maladie. » C'est juste que la plupart des gars la renouvellent pas, leur carte d'assurance maladie, parce qu'ils ont les services de santé offerts par l'armée. Mais techniquement, ils pourraient garder leur carte d'assurance maladie, de ce que je comprends.
Ben, s'il y a une urgence, un accident ou quoi que ce soit, ils se font transférer à l'hôpital de l'armée, par exemple. Il y a de quoi que je saisis pas, parce que si tu la renouvelles pas, puis mettons, tu es sur l'autoroute, tu fais un accident.
Ils s'en vont à l'hôpital de l'armée. J'imagine qu'ils vont à l'hôpital le plus proche, là, dépendant de l'urgence.
Tu as quand même besoin de ta carte.
Mais sinon, ils vont en base militaire.
Je suis fascinée. Je suis fascinée par l'administration de tout ça. Il faut quand même ta carte pour une urgence.
Moi, ce qui me frappe, Pascal, c'est le fait qu'il y a des coroners qui se penchent là-dessus, qui émettent pas de recommandations. Tu sais, je comprends que c'est bien sympathique de la part de la coroner d'avoir discuté avec Patricia Rainville et de dire la meilleure recommandation qu'on peut faire, c'est de ne pas en faire. Moi, je suis pas d'accord avec
moi aussi, j'ai la misère.
Je veux dire, ta job de coroner, c'est d'arriver dans la pièce, ouvrir la lumière, dire exactement ce qui se passe. Puis voici ce qu'on aurait dû faire pour pas que ça soit fait.
Parce que si des experts se penchent là-dessus en parlant à des gens qui sont sur le terrain pendant de nombreux mois, analysent, regardent les statistiques, font des corrélations, ramassent un ramassis d'infos pour pas faire de résumé, soit ce qu'on appelle des recommandations, qui ne sont pas une obligation d'application. On sait, ce sont des recommandations. Pour ceux qui savent pas, là, ils sont pas obligés, là, les gens visés par le rapport d'un coroner, de faire exactement ce qu'on recommande. C'est une proposition face à un rapport d'expert. Mais si t'en fais pas de proposition, Yannick, c'est juste finalement de décrire une situation, mais on était au même point avant l'enquête, non?
Oui, je suis d'accord. 54, parce que les auditeurs qui nous écrivent, non, on a la croix bleue, on n'a pas la carte d'assurance maladie. Peu importe le monde avec la carte de la croix bleue, on est admis dans un hôpital, mais on doit ensuite se présenter à l'hôpital militaire.
OK.
Y a-t-il d'autres choses qui rentrent? Là? Ça rentre en boucle.
Les militaires ont leur propre service de santé, excellent suivi psychologique, hôpital sur place. On a tous des suivis niveau... Appelle-moi, Pascal, je vous appelle après le show pour avoir l'info. Mais Je suis militaire qui travaille dans les services de santé. Bon, si vous voulez nous dire un petit peu plus d'informations, on est super à l'écoute, là. La carte de la croix bleue aussi revient souvent, Yannick, dans ce que tu dis. Mais par rapport au rapport de coroner, tu sais, Régine Laurent, là, mettons, qui a fait un rapport de coroner sur tout ce qui se passe à la DPJ ou certains cas plus précis, là, entre autres la fillette de Granby, des choses comme ça. Les recommandations qui émanaient de son travail puis du travail de tous qui ont travaillé, ils sont pas seuls, là, les coroners, là-dedans. Mm-hmm. J'espère que ça a été appliqué. Moi, il y avait un sens. C'est dans ces rapports de coroner-là, souvent, l'essence même de la base de ceux qui travaillent sur le terrain est revue, scrutée, analysée et mise en lumière. C'est pas mal les seuls documents ou les seules analyses auprès d'instances gouvernementales qui nous font un travail de fond, justement, sur la base puis ceux qui travaillent sur le plancher des vaches. Si on n'a pas de recommandations suite à ça, ce qui il se passe quoi?
On se fie sur quoi pour améliorer les choses? Mais bon, ouais. Là, ce qu'on me dit, c'est que l'armée a fait d'excellents soutiens psychologiques, puis je trouve ça franchement intéressant.
Ouais.
Mais le coroner qui se penche sur ces suicides-là, il faut qu'il fasse des recommandations. Il faut que l'armée prenne ça en considération. Puis, tu sais, je lève une roche, là, puis j'essaie de prendre ce qui est en dessous de cette roche-là. C'est pas toujours facile d'en parler, mais j'ai des chums, moi, qui ont fait de longues carrières dans l'armée canadienne, qui sont sortis de là poqués.
Mm-hmm.
Y a-tu des tests psychologiques qu'on pourrait faire à ces jeunes-là quand ils veulent rentrer dans l'armée canadienne, à savoir s'ils sont prêts à faire face à tout ça? Ça pourrait-tu donner un résultat? C'est ça. C'est de là ma pensée par la suite. Est-ce que 30 ans plus tard, tu peux avoir un résultat comme quoi le gars, il est passé dans l'armée, il a eu 25 missions, là, je dis n'importe quoi, puis il ressort de là, puis il est moins magané.
Parce qu'il y a moins vu d'affaires, c'est parce qu'il était plus fort sur certains aspects, c'est parce qu'il y a une capacité d'adaptation et de création de détachement plus qu'une autre personne. Ouais. Je trouve ça intéressant
mais
ce que tu dis.
Moi, je me considère comme une personne forte, mm-hmm. mais quand ça touche les enfants, quand ça touche les animaux, je suis une personne très faible.
Fait que si tu étais mis devant un théâtre comme celui-là, peut-être que tu serais moins fort et tu reviendrais avec un choc post-traumatique.
C'est ça. Mais je pourrais peut-être aller faire la guerre puis revenir sans choc post-traumatique. Mm-hmm. Mais dès que ça mais si je m'en vais, exemple, je vais parler d'un fait vécu d'un de mes chums, il est allé en Bosnie-Herzégovine. Il a ouvert un endroit où il s'attendait à avoir des ennemis. Finalement, c'était pas des ennemis, c'était des gens qui étaient là, maganés, qui avaient été abandonnés. Puis, encore aujourd'hui, il pense à ces gens-là.
T'sais, lui, capital humain.
Il est rendu où la petite fille que j'ai retrouvée? Il est rendu où le petit gars que j'ai retrouvé?
C'est correct.
C'est ça, ce côté-là. Je veux dire, tu peux pas prévoir ça.
Mais tu veux pas envoyer juste des sociopathes ou des psychopathes qui n'ont pas de ils ont pas de caractère humain, ben ça fera pas de meilleurs soldats non plus. Là. Peut-être dans certaines fonctions, mais...
Mais c'est comment faire pour qu'il y ait moins de poqués une fois qu'ils sortent de leur service militaire. Même les policiers aussi. Comment faire pour qu'il y ait de moins en moins de poqués? Ils envoient des affaires, les policiers, là, des trucs atroces qui sont faits. Ceux qui sont intervenus auprès des enfants de Guy Turcotte, là, ils ne travaillent plus dans la police. Là.
On se comprend donc.
Ils ne travaillent plus dans la police. C'est fini, c'est terminé. Merci, bonsoir. Ils ont passé à d'autres choses.
Je me demande si vraiment on peut être aussi... S'il y a vraiment des personnalités qui sont teflon au point où que rien va les toucher. Tu penses que oui?
Oh, oui, il y en a qui sont capables de t'sais, fuir, figer ou foncer. Il y en a qui vont toujours être capables de foncer sans jamais qu'il y ait de lendemain.
Mais des fois, tu fonces puis tu as quand même le choc post-trop quelques années plus tard. Là.
Ben, on le voit le résultat, mais tous ceux qui sont sortis de l'armée canadienne, c'est un faible pourcentage de gens qui vont pas bien. C'est que nous, on met la lumière sur ces gens-là, mais 80%...
C'est quoi le pourcentage?
Je sais, c'est une bonne question. Il faudrait leur demander. Je veux juste pas te dire n'importe quoi. Mais tu sais, dans tous les chums qui ont fait l'armée canadienne, mettons, sur les 10 que je peux avoir, que je considère comme des chums, il y en a 3 qui sont poqués en sacrament, puis 2 qui sont poqués.
Ouais, tu as quelqu'un qui nous dit tout est relatif, là, une personne qui semble très près de ça. C'est propre à chacun. On ne peut pas savoir avant les faits. Fait qu'on ne peut pas savoir avant de l'avoir expérimenté.
Non, mais je veux dire, il y a des études qui sont faites sur les profils psychologiques. On ne peut pas remettre ça
Mais c'est pas dur comme faire, par contre, parce que tu as des études, en fait, qui sont... Les meilleures études, c'est une étude qui se base sur plusieurs puis qui en font un gros constat. Puis tu as toujours une faille. Tu as une faille assurée. Là. Humainement, tu as une faille assurée.
Ah, mais moi, je sais.
Pensée.
C'est les enfants puis les animaux.
Il y en a qui les connaissent pas nécessairement, qui pensent qu'ils n'en ont pas. Puis à un moment donné, pour un contexte, que c'est ton ami versus juste un collègue, versus une scène quelconque, puis là, ça émerge. Un excellent livre là, que j'ai trouvé dans les dernières années, qui se lit super bien. Tu n'aimes pas lire, peu importe. Moi, soldat. C'est des petits portraits de soldats. Peu importe qu'est-ce qu'ils ont fait, quelle mission ils ont fait. mais tu vas surfer dans certaines tales. Mais ce que j'ai compris quand même de ce livre-là, c'est que le devoir de réserve est quand même très, très grand pour les militaires. Fait qu'il y a des choses qu'on ne saura jamais, qui, j'espère, le département de psychologie et de psychiatrie aux militaires est capable d'ouvrir ces portes-là, puis on a le droit de le faire, ça.
Est-ce que au niveau des robots, tu sais, les robots, les drones, ça va-tu améliorer les choses? Tu sais, les robots, ils reviendront pas poqués. Les drones, ils reviendront pas poqués. Quoique les drones sont souvent pilotés par des pilotes de drones à distance.
Mais je pense que ça va être pire parce que t'as comme un peu comme les réseaux sociaux, là. Il y en a qui ont plus de valve, ils ont plus de filtre, ils disent ce qu'ils pensent, mais ils disent des fois trop ce qu'ils ont eu l'impression de penser sur le coup de l'émotion, qui font mal à des gens. Mais qui ne serait jamais capable de le faire face à ces gens-là. Mais travailler avec des drones, des ordinateurs et autres, probablement qu'il y a une partie de ton humanité qui pourrait bloquer devant un théâtre de guerre, qui va sauter parce que tu as l'impression de jouer à un jeu vidéo, tu sais.
Bref, à suivre le reportage de l'équipe d'enquête du Soleil.
Très bon.
Sur le suicide chez les militaires québécois. 54 morts en 7 ans et une seule petite recommandation. Ça fait un petit peu pic-pic. Midi 25, vous avez des choses à nous dire. 88 971 1021, on vient. Gravel.